Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'épisode consacré aux questions posées par le soin à domicile. Le soin à domicile représente une modalité de prise en charge qui, au-delà de ses aspects pratiques, soulève de nombreuses questions sur les conditions, l'organisation et l'accompagnement des patients et de leurs proches. Si cette forme de prise en soin semble souvent répondre au désir des patients de rester chez eux, elle implique aussi des considérations logistiques et humaines. Entrer dans le domicile des personnes soignées et accompagnées engage les soignants dans une relation d'une nature directement familière. Le fait d'entrer chez les gens dans leur lieu de vie les expose dans toute leur fragilité et implique le soignant dans leur quotidien. La relation de soins est spontanément teintée par la dimension relationnelle et affective. Comment les soignants gèrent-ils ces liens parfois très personnels, notamment face à des situations émotionnellement intenses comme un décès ou un déclin long et difficile ? L'impact d'un tel engagement est paradoxal. Il peut à la fois être une source de fatigue professionnelle qui risque de nuire à la santé du soignant et le conduire à se désengager des relations avec les patients. Mais cet engagement peut aussi être vécu comme la source même du sens du soin, un retour à une clinique de proximité, à un lien particulier qui permet de trouver sa place de soignant. Une autre question importante à propos du soin à domicile porte sur le rôle des aidants. Les proches du patient doivent développer des compétences soignantes pour pouvoir l'aider à vivre avec sa pathologie. En suivant et en assurant une partie importante du soin quotidien, ils deviennent des acteurs essentiels dans le soin à domicile. Mais cette responsabilité constante peut peser lourdement sur leur bien-être psychologique. Alors, quelles stratégies doivent être mises en place pour prévenir la fatigue professionnelle des soignants qui interviennent à domicile ? Les soignants peuvent-ils concilier la proximité du soin à domicile et leur équilibre personnel ? Et comment les aidants familiaux sont-ils accompagnés par les professionnels pour pouvoir continuer à contribuer aux soins de leurs proches sans compromettre leur propre état de santé ? Dans cette deuxième partie, je poursuis la discussion avec mes invités. Manuelo Turkiewicz.
Bonjour, donc je suis médecin coordinateur au DAC 32, mais également médecin au centre de prévention et d'épuisement des soignants en CHU de Toulouse. Et enfin, je fais actuellement un doctorat en droit à l'Université de Montpellier.
Et Marie-Claude Daïdé.
Alors moi, je suis infirmière. J'ai longtemps été infirmière de soins à domicile et également j'ai travaillé dans une équipe mobile de soins palliatifs à domicile. Je suis actuellement vice-présidente d'une communauté professionnelle territoriale de santé et également chargée de mission auprès de l'espace de réflexion éthique Occitanie.
Et alors pour les soignants, du côté soignant qui est le vôtre en réalité, comment s'organise l'intervention au domicile ? Est-ce que les soignants font toujours partie d'une équipe ? Mais non, quand on est par exemple infirmier libéral, est-ce qu'on fait partie d'une équipe ? C'est-à-dire est-ce qu'on peut communiquer ? Et quand on est par exemple médecin généraliste en ville et qu'on intervient au domicile, est-ce qu'on peut avoir accès à une collégialité ? Voilà, je me dis que dans le soin à domicile, en fait, il y a une sorte de relation individuelle, en fait, avec le patient. Mais est-ce qu'on a un recours derrière à de la collégialité ?
Je pense qu'il y a une chose, c'est qu'à domicile, l'équipe, elle est toujours différente, ou le plus souvent différente. C'est-à-dire que c'est le patient qui choisit ses professionnels, enfin, qui choisit de moins en moins, vu la démographie, mais tout de même. Donc, l'équipe, l'infirmière libérale ne va pas travailler toujours avec le même médecin, comme dans un service hospitalier, ou toujours avec le même kinésithérapeute. Donc l'équipe, elle est mouvante, elle est changeante en fonction des choix du patient.
D'accord.
Après, de plus en plus, maintenant, les professionnels du domicile travaillent en équipe parce qu'il y a de plus en plus de maisons de santé pluridisciplinaires, notamment des multisites qui se propagent de plus en plus. Il y a aussi les CPTS. Alors les CPTS, elles ne sont pas dans le soin, elles sont plutôt dans les parcours de soins. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux professionnels de se rencontrer, de se connaître. Et on fait plus facilement équipe avec quelqu'un qu'on connaît.
Donc CPTS, c'est Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. Donc ça, c'est un lieu de rencontre pour les professionnels de santé.
Oui, c'est un lieu de rencontre parce qu'il y a des groupes de travail qui se mettent en place dans ces CPTS autour des parcours de soins. L'idée, c'est de mettre en place des parcours de soins et de faire en sorte aussi que les patients aient un médecin généraliste. Donc, on aide les patients à trouver des médecins généralistes, à prendre en charge les soins qui ne sont pas programmés. Et du coup, ça permet aux professionnels de se rencontrer, de se connaître.
D'accord.
Pour compléter, je dirais que la collégialité est une nécessité qui s'est imposée en libéral, dans le sens où les soins sont de plus en plus complexes. Il faut un moment en discuter. C'est forcé. Il y a une barrière. À un moment, même la famille va nous mettre face à ce constat en disant « Mais docteur, vous êtes sûr parce que l'infirmière n'a pas le même avis que vous parce qu'elle a vu ma maman ou mon papa dans tel état. » Donc ça s'impose en fait en libéral, en soins à domicile. Et comme on est de moins en moins nombreux, effectivement, on se connaît. Moi, sur la structure dans laquelle je travaille, le DAC, un de mes objectifs est justement de faire en sorte que sur les cas les plus critiques, on puisse trouver des moments de discussion. Alors, aujourd'hui, la technologie aide pas mal, dans le sens où, avec un téléphone portable, vous pouvez maintenant avoir accès à de la visio.
Oui.
Donc, nous, de plus en plus, on organise des temps de visio, ce qu'on appelle les RCP, et on met deux médecins, deux infirmières, l'aide-soignante dans le lot, et on discute du patient. Donc, aujourd'hui, pour moi, la collégialité est nécessaire. Je ne connais pas de praticien, à part sur des cas simples où il n'y a pas de questions. Mais par exemple, sur les situations de fin de vie, les situations avec des gros troubles neurocognitifs où le patient est encore à domicile, vous êtes forcé, on est forcé de se parler. Ce n'est pas possible, sinon on ne peut pas avancer. Mmh. Si chacun va dans un sens, sans voir où l'autre va, on va dans le mur.
Aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux, mais avec aussi des polypathologies, davantage de pathologies chroniques. Mmh. Et donc, forcément, il y a de la complexité. Et cette complexité, on ne peut pas la gérer tout seul. Donc, il y a besoin, effectivement, d'une collégialité, d'une équipe et d'une collégialité.
Et c'est intéressant, cette question, parce que sur l'exercice libéral, on ne voit pas cette collégialité. C'est-à-dire que depuis l'extérieur, on a l'impression que chacun est un électron libre et que, finalement, il exerce comme il le sent ou comme il le pense être le mieux, mais c'est très intéressant de savoir que cette collégialité existe, qu'il y a des éléments qui sont, enfin des dispositifs qui sont mis en œuvre, hein, comme vous disiez par exemple une réunion en visio pour pouvoir avoir accès à cette collégialité. Il y a aussi le fait que peut-être, je ne sais pas si pour vous ça rentre en compte, mais le fait qu'il y ait de plus en plus de soignants qui exercent en libéral, qui se regroupent.
Oui, c'est ce que j'évoquais avec les maisons de santé, par exemple.
Oui, voilà, c'est ça, voilà. Exactement. Et alors, question un peu prosaïque peut-être, mais très importante, je pense, pour les proches, les familles qui sont concernées. Est-ce que le soin à domicile coûte moins cher qu'un soin réalisé en établissement de santé?
Alors, moi, je n'ai pas vraiment de chiffres à proposer.
Il faudrait comparer.
Et pas de réponse à donner.
Situation précise.
Mais en tous les cas, à domicile, ce qui est de plus en plus important, c'est les restes à charge pour les familles et les patients. Il y a
d'accord.
un certain nombre de choses qui ne sont pas prises en charge.
Mmh.
Elles le sont quand le patient bénéficie de ce qu'on qualifie de service d'hospitalisation à domicile.
Mmh.
Mais par contre, quand il n'y a pas ces services-là, il y a des restes à charge qui sont relativement importants et qui vont, semble-t-il, le devenir de plus en plus. Après, il y a le problème du coût de l'EHPAD aussi. Il y a des maintiens à domicile qui sont en place parce que les familles ou les patients ne peuvent pas financer une EHPAD.
Mmh.
Les coûts des EHPAD sont quand même importants.
Mmh.
Donc, il y a aussi cette notion-là, si on parle de coûts. Il y a aussi le fait que les patients ne restent pas très longtemps dans des lieux hospitaliers. Souvent, ils reviennent à la maison parce que, puisqu'en milieu hospitalier, maintenant, ils sont qualifiés de bed bloqueurs, ces patients qui bloquent les lits.
Mmh.
Donc, il y a du personnel qui est spécifiquement chargé de désencombrer ces lits. Donc,
Alors, vous faites une distinction depuis le début de l'entretien entre le soin à domicile et l'HAD, donc l'hospitalisation à domicile, c'est quoi la différence entre les deux?
L'hospitalisation à domicile, c'est une hospitalisation à domicile.
Ça fait partie des soins à domicile, en fait, ce que j'expliquais au départ.
Alors c'est...
Dans les soins à domicile, il y a différents dispositifs qui existent,
d'accord.
dont l'HAD.
Mais alors, qu'est-ce que c'est la distinction de l'hospitalisation à domicile? C'est la prescription qui n'est pas la même?
Alors, c'est les critères pour rentrer dans l'hospitalisation à domicile. Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne suis pas médecin dans ces structures-là, mais ils ont des critères bien précis pour prendre en charge.
Mmh.
Par exemple, les soins de nurse sont considérés comme du soin de domicile. Bon, si vous demandez à l'HAD de faire du soin de nursing, c'est-à-dire tout ce qui est toilette, hygiène, prévention des escarres à l'HAD, l'HAD va vous répondre ça ne fait pas partie de mes missions.
Ah.
Il faut vraiment les voir comme, comme un hôpital qui est déporté
mobile
chez le patient.
D'accord.
Ils ont accès, par exemple, à l'usage de la PUI, la pharmacie usage intérieur. Ils ont les mêmes médicaments qu'à l'hôpital.
D'accord.
Donc, on peut
d'accord
mettre en place, grâce à l'HAD, de la chimiothérapie, par exemple.
Mmh.
Ce qu'on ne pourrait pas avec du soin à domicile. C'est, l'HAD, c'est vraiment une unité annexe de l'hôpital,
oui,
mais à domicile. Mais par contre, pour y rentrer, il y a des critères bien précis.
D'accord.
Qui sont plutôt des soins complexes, en fait.
Voilà.
Donc, les soignants qui interviennent sur les hospitalisations à domicile sont des soignants du CHU ?
Alors, ça dépend des hospitalisations,
voilà,
à domicile. Il y a des services d'hospitalisation à domicile qui ont des soignants salariés et qui n'ont que leurs propres soignants salariés.
D'accord.
Et il y en a d'autres, comme c'est le cas sur notre secteur, où ils font appel aux infirmiers libéraux.
D'accord.
Donc, l'infirmier libéral va travailler de concert avec l'HAD.
D'accord. Donc, c'est coordonné depuis l'hôpital.
Depuis l'HAD, depuis
l'antenne.
Depuis le service, excusez-moi.
Voilà.
On va aborder un autre thème qui est la place des soignants dans le soin à domicile et dans le domicile, plus précisément. C'est-à-dire que ce type de soin implique une proximité particulière avec le patient, avec son entourage, une proximité qui est régulière, parfois sur plusieurs années. Et donc, vous entrez chez eux, vous entrez chez les gens, et à la différence d'une chambre d'hôpital ou d'une hospitalisation, par exemple, il paraît plus difficile de demander aux proches, par exemple, de sortir pour pratiquer un soin, non ? Puisqu'ils sont chez eux. Que ce soin soit douloureux ou intrusif, finalement, comment vous gérez ces situations ? Peut-être Marie-Claude, en tant qu'infirmière, comment vous avez eu l'occasion de gérer ces situations où, les proches sont là.
Alors oui, effectivement, c'est des situations que j'ai déjà rencontrées. Mais en général, moi, je demandais toujours le souhait du patient. Est-ce qu'il souhaitait que son proche reste dans la chambre pendant le soin ? Et également aux proches, s'il souhaitait. Et lorsque le patient ne le souhaitait pas, généralement, je l'expliquais aux proches et ça n'a jamais posé vraiment de problème.
Mmh.
Après, je pense qu'il y a aussi une relation de confiance qui s'instaure autant avec le patient qu'avec les proches.
Oui.
Donc, quand ces situations-là se profilent, on arrive à en discuter sans trop de problèmes. Enfin, pour moi, ça a été le cas en tous les cas.
D'accord, donc ça se fait naturellement,
oui,
par le dialogue.
Oui, par le dialogue, oui.
Et cette proximité, elle se retrouve, oui, dans la qualité des relations. Je le disais, parfois une même famille, elle est accompagnée pendant des années par les mêmes soignants. Il y a des liens assez profonds parfois, quasiment des liens amicaux qui peuvent se créer. J'ai discuté il y a un moment avec un infirmier qui me disait qu'une famille qui l'accompagnait sur du soin à domicile depuis des années lui avait proposé de partir en vacances avec elle pour pouvoir poursuivre les soins, par exemple, puisqu'en fait, sans les soins, ils ne pouvaient pas partir en vacances. Et puis, comme ils avaient une relation qui ressemblait à quelque chose d'amical, et ça leur semblait une évidence aussi de pouvoir faire cette proposition. Donc, le soin à domicile, il expose à franchir certaines barrières que les soignants cherchent à maintenir, j'imagine, pour se préserver aussi, parce que dans une telle proximité, ça doit être très difficile pour les professionnels de, par exemple, vivre un décès ou vivre une dégradation importante de l'état de santé. Vous, Manuelo, je le disais en introduction, vous travaillez justement sur cette question de la santé des soignants. Comment vous le voyez, ça ? Est-ce que la pratique au domicile, elle est plus éprouvante pour les soignants ?
Je pense que les soignants doivent effectivement s'imposer et imposer des barrières. Parce que la barrière, certes, c'est un élément physique de séparation, mais c'est aussi un élément physique de protection.
Mmh.
Parce que si on n'arrive pas à garder la bonne distance, surtout que, comme vous l'avez dit à maintes reprises, le soin à domicile, très souvent, vous n'avez pas affaire qu'à une seule personne. Vous avez affaire au patient, mais à la famille.
Mmh.
Et parfois, les familles sont divisées, sont unies. ont des visions différentes sur la maladie, etc. Et vous êtes le seul interlocuteur avec l'extérieur.
Oui.
Si on ne se protège pas correctement et avec la bonne distance, oui, bien entendu, on s'expose derrière à une fragilité émotionnelle, à mal vivre un décès. Est-ce qu'un décès peut être bien vécu, je ne sais pas, mais à mal vivre le décès et à d'autres conséquences. Mais on pourrait débattre là-dessus longtemps. Une famille où vous êtes trop proche, est-ce que vous savez, sur une thérapeutique, facilement dire non ? Une thérapeutique, par exemple, inutile. Cette thérapeutique, vous n'avez pas su dire non. Elle a un effet négatif, indésirable sur le patient, qui complique encore plus sa maladie. Vous le vivez comment après ? C'est excessivement compliqué. Un médecin a travaillé là-dessus, le professeur Eric Gallam, sur l'erreur médicale, la seconde victime qui est le soignant derrière.
Oui.
Garder les bonnes distances, c'est aussi se protéger mentalement et savoir dire non pour le soignant. Je pense qu'on ne nous l'enseigne pas assez. Il faut savoir dire non, jusqu'à où on va, qu'est-ce qu'on peut accepter. Parce que sinon, derrière, il n'y a plus de limites. Il n'y a encore pas longtemps, je discutais avec un collègue sur des soins palliatifs à domicile, avec des familles avec qui il était, alors je ne dirais pas proche, mais qu'il connaît depuis des années, sur le fait de donner son 0,6 perso ou pas.
Eh oui, par exemple.
Comment on le gère, ça? Comment à telle situation on répond et à telle autre on ne répond pas? Ça devient vite l'enfer. Donc oui, c'est nécessaire de se protéger, de mettre des barrières, de la juste distance. Mais c'est très facile de le faire pendant une émission de podcast. Et le jour où on est confronté à la famille, surtout quand ils vous attendent à 17 quand vous rentrez au domicile, oui, c'est compliqué. Surtout qu'on ne maîtrise même pas la temporalité.
Oui.
Autant dans un cabinet médical, vous regardez votre montre, vous savez que vous divisez la consulte, bon là je l'examine, là je fais ci, là je fais ça, et il sort. Mais autant quand vous êtes à domicile, on est en train de vous servir le café.
Mais oui, il y a toute cette proximité-là qui
s'installe. On vous apporte un bout de gâteau, on vous dit non mais docteur, attendez, goûtez ça, truc. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez vous lever pour examiner. Dire non, c'est très compliqué. Quand est-ce que vous finissez la visite ? C'est très compliqué parce qu'on a toujours quelque chose à vous dire. Donc, il faut se fixer des barrières pour se protéger.
Ça, c'est un mantra, on peut dire un idéal.
Mais on le voit surtout, je trouve, avec les médecins qui ont de l'expérience de l'âge. Ils savent presque, je veux dire... On pourrait avoir des centaines de livres pour nous l'apprendre, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne le sait pas. Et quand moi je vois certains de mes maîtres qui ont beaucoup plus d'expérience, qui sont plus âgés, ils le gèrent avec une fluidité, alors que vous, vous sortez de fac, tout ça c'est très théorique.
Oui, c'est ça. Voilà. Jusqu'au moment où on le vit, finalement, on ne sait pas vraiment comment on va réagir. Marie-Claude, du point de vue des paramédicaux, comment ça se passe ?
Moi je voulais revenir sur la question du deuil que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui.
Alors oui, il y a des deuils qui peuvent être difficiles, mais j'allais dire, on a aussi des ressources malgré tout.
Oui.
Parce que souvent, tous les cas, les infirmières reviennent voir la famille pour différentes raisons. Des fois, c'est parce qu'il y a du matériel à récupérer, d'autres fois pour d'autres choses. Mais souvent, il y a plusieurs rendez-vous, je dirais, autour d'un café. Et du coup, ça permet de partager au moins un petit temps de ce deuil avec la famille qui est partagée. Donc ça, c'est plutôt aidant. Il y a tout le collectif, il y a les collègues aussi. Quand on perd un patient dans un cabinet, on en parle beaucoup entre nous.
D'accord.
Donc déjà, c'est aussi une ressource, ça. Et puis, comme on est en soins à domicile et que nous n'avons pas que des patients en soins palliatifs en soins à domicile, on va peut-être voir la visite d'après, ça va être une maman qui vient d'accoucher, vous voyez.
Oui.
Donc, c'est dans la vie en permanence, quoi.
Oui.
Et ça, c'est aidant aussi pour supporter, en termes de supporting, des deuils.
D'être soutenu, quoi.
Oui, d'être soutenu pour ces deuils-là.
Donc finalement, les moyens pour trouver un équilibre, c'est à la fois, ce que j'entends de vos réponses, c'est à la fois les pères et l'exemple qu'ils vous donnent, et les discussions aussi avec les pères qui peuvent être soutenants, entendre en fait ce que vous avez vécu et peut-être échanger avec vous sur votre expérience.
Oui, tout à fait.
Donc là aussi, il y a une question de temps. Hein. J'entends que quand on sort d'école, on n'est pas prêt et qu'il faut finalement vivre ces expériences pour pouvoir sentir comment trouver sa place. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Manuelo Turkevic et Marie-Claude Deydé. Nous nous retrouvons dans une troisième partie pour poursuivre ces échanges. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse-Jean Jaurès.